te bendice Dios. Ay Dios.
A la buena sí, a la mala no.
Pero si te pone violento, me violento yo también.
A la buena sí, a la mala no.
Mira, no te pongas pesado conmigo, que más pesado soy yo.
A la buena sí, a la mala no.
Te lo advertí. Conmigo, a la buena minero, porque yo no soy hija del cariño.
Alors nous avons un téléphone de Dina que nous allons essayer de passer sur l'antenne. Allô voilà. Dina, tu m'entends? Allô, allô? Allô, allô, allô? Il y a du gaz dans les tuyaux. On n'arrive pas à faire passer Dina à l'antenne, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup Dina de nous avoir téléphoné. Elle nous écoute avec beaucoup d'émotion aussi. Ça lui fait grand plaisir d'entendre toutes ces voix différentes qui retracent un moment d'histoire, mais aussi un futur du mouvement des femmes. Et puis Dina avait envie de nous parler d'une association qu'elle trouve très intéressante, qui s'adresse surtout aux étrangers, mais pas seulement aux Suisses aussi. C'est une association qui s'appelle J'y vis, j'y vote, et qui essaye de mettre sur pied pour des votations pour qu'au niveau communal, les étrangers qui vivent dans ces communes depuis plusieurs années obtiennent le droit de vote. Donc il y a cette association, un numéro de téléphone, un fax également. C'est à Genève, le 022 320 26 28. Je répète, association J'y vis, j'y vote, 320 26 28 à Genève. Merci beaucoup Dina, et puis on espère à une prochaine.
passé, c'est joli, mais de vivre, c'est une douce folie. Pourquoi me lamenter encore, sans penser au délire au dehors? On vient dans ma maison, aux mille passions, le bonheur existe. Il est sur ma playlist et je le contiens, égoïste.
Morane, différente quand je chante sur Radio Zone, Onde Femme, 93.8. Une dernière émission, Remue Ménage, Radio Pleine Lune réunie. Et surtout plein de femmes dans ce studio. Je crois qu'il n'en a jamais contenu autant, à la fois, si ce n'est peut-être dans notre fameux marathon, qui à l'époque se faisait quand même régulièrement, hein, où 24 heures sur 24, la radio en entier émettait. Et Onde Femme, évidemment, relevait le défi d'émettre pendant 24 heures, à son tour aussi. J'avais l'habitude dans Remue Ménage de recevoir une fois par mois Annette et Evelyne. Pourquoi Annette et Evelyne ? Parce qu'elles sont membres de ce projet magnifique que sont les Inédites, dont a parlé déjà un petit peu tout à l'heure Annette. Et j'avais beaucoup de plaisir à ce qu'elles viennent me parler de livres dans Remue Ménage chaque mois. Chaque mois, elles amenaient ce qu'elles avaient découvert, ce qui les avait passionnés. Elles nous lisaient des extraits et vraiment, c'était une très très belle aventure. Est-ce que c'était la même chose pour vous ?
Alors, tout à fait. Moi, j'avais beaucoup de plaisir en regardant sur les rayons de la librairie, en me disant, quel est le livre qui fera plaisir ? Bien sûr, à Catherine aussi, j'espère, à celle qui nous écouterait ce soir-là et à celle qui nous écoute aussi aujourd'hui. J'ai choisi un livre qui...
Attends, peut-être juste avant que tu évoques le livre d'aujourd'hui. Moi, je me souviens, par exemple, que vous nous avez aussi embarqué dans des lectures à plusieurs. Hein, ça, c'était un autre aspect de votre collaboration. Vous nous disiez, si on lisait à plusieurs tels livres, on avait lu un livre, maintenant, il faut que je me rappelle les titres, une histoire d'une jeune Sicilienne qui portait des pantalons. Là, on avait demandé à toutes nos copines de lire ça, une amie sicilienne d'ailleurs, une autre qui venait d'ailleurs.
Pour voir si ça correspondait à quelque chose de vécu par d'autres.
Ou bien...
Une fois, on avait associé une éditrice. C'était même peut-être la première qui est venue parler ici de son métier.
La dame de Métropolis, comment elle s'appelle déjà ?
C'est ça. Michel
Strohl. Voilà, oui. Michel Strohl.
Et on a invité aussi une femme auteure qui a écrit La femme aux ailes de cire, qui est en feu.
Evelyne voilà.
Qui, effectivement, est probablement un des livres les plus intéressants qui a été fait sur les premières femmes qui se sont formées en Suisse.
Donc, de multiples aspects de vos diverses présentations et coups de cœur. Alors, aujourd'hui, vous avez surtout envie de nous faire partager de nouveaux coups de cœur dans l'actualité des sorties des livres et peut-être encore plus à cette veille de Noël parce qu'on adore acheter des livres et dans vos toutes nouvelles librairies, c'est un bonheur de venir fouiner. Alors, Annette, qu'est-ce que tu nous proposes pour aujourd'hui?
Alors, pour celles qui nous ont écoutées avant ce soir, très souvent, j'ai présenté ici des livres qui racontent les histoires de femmes qui viennent de l'Est. Il y a des Russes, mais il y a aussi des Allemandes. Et aujourd'hui, où nous avons donc pu entendre l'élection très positive de notre présidente Anne Ruth Dreyfus, j'ai beaucoup pensé à celles qui l'ont précédée et dont j'ai parlé ici avec beaucoup de bonheur. Je pense évidemment à Rosa Luxembourg, à Clara Zetkin, à Alexandra Kollontai. Et aujourd'hui, à la librairie, donc, puisque c'est toujours là que je me fournis, bien entendu, sur les rayons des biographies, j'ai trouvé un livre dédié à Lili Bric. Alors Lili Bric, elle est plutôt connue parce qu'elle est la sœur d'Elsa Triolet, dont nous avons aussi parlé ici à l'occasion. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire connaissance avec Lili Bric, qui est une femme qui est morte très âgée à Moscou et qui a traversé quasiment tout le XXe siècle dans ce pays absolument extraordinaire, mais qui effectivement n'était sûrement pas facile à vivre pour une femme comme elle, qui était d'abord une femme de salon et de création. Elle aimait la poésie, elle aimait les artistes, elle aimait faire la foire, elle aimait faire des invitations. Et son salon était probablement le salon le plus prisé de tout Moscou. Elle a toujours vécu sur la cour de raid en se demandant s'il n'y avait pas bientôt un policier qui la mettrait en prison. Alors j'aimerais juste vous lire un petit extrait de la description de cette femme quand elle est déjà très âgée. Et à quel point son charisme plaisait à tout le monde. Lili Yurevna embaume un luxueux parfum français. Son maquillage soigné, où les rides composent un graphisme raffiné, semble l'œuvre d'un maître d'autrefois. Ses cheveux roux, mêlés d'une blancheur qu'elle ne cherche plus à dissimuler, se marient merveilleusement avec ses yeux noisettes, avec la broche d'argent sertie d'une énorme pierre fine, avec un enchevêtrement de collier et le noir distingué d'une robe conçue pour elle et pour elle seule. Des bottes élégantes gainent ses jambes d'une minceur inimaginable. Je me demande comment elles peuvent supporter le poids d'un corps si frêle paraît-il, et quel contraste entre cette fragilité et la vigueur d'une voix au timbre riche et chaud, dire qu'elle va sur ses 86 ans. Alors c'est comme ça que le biographe décrit la rencontre qu'il fait avec cette femme qui est déjà très âgée et sur laquelle il va donc bientôt écrire l'histoire.
Annette, tu es souvent très passionnée par ces énormes biographies.
Ah oui, alors
là,
ça,
je vois que c'est de nouveau,
oui,
un
c'est
pavé.
De nouveau un pavé, effectivement.
Qu'est-ce qui te passionne? Tu adores te glisser comme ça dans la vie de ces personnages de femmes qui ont à un moment donné marqué comme ça l'histoire ou le temps dans l'évolution de la situation, oui, des femmes?
Bien sûr, mais je trouve que c'est tellement intéressant d'entrer longuement dans la vie de ces personnages, de ces femmes, parce que c'est pas juste en racontant en quelques lignes leur itinéraire, disons, professionnel ou de militante, hein, parce qu'en général, c'était quand même toujours des femmes qui ont marqué leur époque. C'est vraiment en faisant connaissance, pas seulement avec elles, mais avec tout l'entourage qu'elles fréquentaient, qu'on arrive à imaginer un petit peu le mode de vie qu'elles avaient, les doutes, les enthousiasmes, les déceptions, les départs, les recommencements. Et c'est vrai que je pense que l'art du biographe est, dans ce sens-là, extrêmement important. Alors j'apporterai peut-être une petite nuance au livre dont je parle aujourd'hui. Le biographe est un homme qui s'appelle Arkady Vaksberg et je pense qu'il a, d'ailleurs il l'explique dans une petite notice à la fin du bouquin, il explique bien qu'en fait, depuis que le Kremlin a rouvert ses archives, eh bien, il y a des quantités de lettres, par exemple, ou de rapports sur un certain nombre de personnages qui étaient en Russie pendant l'époque, notamment des années Staline suivantes, qui sont maintenant mises à jour. Alors, on a de temps en temps un petit peu trop l'impression que c'est une compilation de documents. Grâce à l'ordinateur aujourd'hui, on peut faire un livre en travaillant bien avec les différents documents qu'on scanne. Et il n'y a pas toujours le rapport, j'ai envie de dire, affectif entre le ou la biographe et puis la personne qu'on décrit. Alors j'ai lu des biographies ici qui sont écrites par des femmes, entre autres, mais aussi un ou deux hommes qui avaient suivi d'une autre manière leur personnage. Et ça donne des livres plus intimes, plus riche au niveau affectif. Malgré tout, Lily Brick, c'est une femme tout à fait inconnue et ça, c'est quand même très intéressant de voir un petit peu par où elle a passé et quels étaient ses contacts.
Alors, nous n'avons malheureusement pas de musique de femme russe, mais je te propose un petit clin d'œil de la part de Nina Hagen.
Alors, j'écoute.
Donc c'était un petit clin d'œil. Il faut baisser le microphone. C'était un petit clin d'œil à la Russie avec Nina Hagen qui rendait hommage à ce cher Mikhaïl qui nous proposait sa glasnost en son temps. Je crois que tu avais encore envie, Annette, de nous parler du fait que la dame que tu évoquais, Lily Brick, était en fait la muse d'un personnage très connu aussi.
Oui, bien sûr. C'est clair que d'une certaine façon, c'est sa célébrité, c'est effectivement qu'elle a été celle qui a accompagné le grand poète russe Maïakovski. Ils étaient très très liés. Ils ont fait effectivement toute une partie de leur vie ensemble. Maïakovski s'est suicidé jeune encore et ensuite elle a continué sa vie sans lui. Ça a été un énorme chagrin dont elle ne s'est d'ailleurs jamais remise. Et c'est effectivement comme ça qu'on la connaît un petit peu plus dans le monde de la littérature. Mais Maïakovski aimait Lily Brick et j'aimerais vous lire quelques vers écrits par lui pour cette femme absolument remarquable. Chacun en naissant est nanti d'amour, mais les emplois, les rentes, tout ça vous dessèche le sol du cœur. Le cœur est vêtu d'un corps, le corps d'une chemise, mais ce n'est pas assez. Quelqu'un, l'imbécile, confectionna des manchettes et sur les poitrines coula l'amidon. En vieillissant, l'on se ravise. La femme se maquille, l'homme fait le moulin, trop tard. La peau se ratatine de rides, l'amour fleurit et se flétrit. Voilà. Alors ça, c'est le départ d'un poème de Maïakovski dédié à Lily Brick. Et il est clair qu'elle a été sa grande inspiratrice.
Mikhaïl. Evelyne, toi, tu as envie d'évoquer tout à fait autre chose. Tu as envie de nous raconter un conte, c'est ça?
C'est ça. Alors, quand tu m'avais parlé de cette dernière mission, tu m'avais dit, au fond, tu apportes ce que tu as envie d'apporter.
Exactement.
Et alors, j'ai fait usage de cette liberté.
Quelle chance.
Et puis, je me suis dit que j'étais à la librairie, dans notre catalogue de nouveautés, qui paraît 5 fois par année, auquel vous pouvez vous abonner. J'ai souvent été le porte-parole de notre rayon femme d'ailleurs et des littératures qui viennent d'ailleurs. Et en particulier, j'aimais beaucoup les littératures d'Amérique latine et tout particulièrement aussi celles qui se trouvent autour de la mer des Caraïbes. Et puis là, la personne qui m'est venue à l'idée, quand je réfléchissais à cette émission aujourd'hui, ça a été Isabel Allende, qui est une auteure d'origine chilienne. C'était, je crois, la nièce du président Salvador Allende. Et elle a vécu très longtemps au Venezuela, où moi-même, j'ai habité. Enfin, c'est elle qui est venue dans ma tête et qui m'a hantée. Et puis, je suis allée chercher des contes qu'elle a écrits. Contes d'Eva Luna, il s'appelle. Il y a 2 recueils de contes. Et puis, en particulier, dans ce recueil, un conte qui s'appelle 2 mots. Alors, si tu es d'accord et si tu n'es pas fatigué de m'écouter, je vais essayer d'évoquer ce conte.
Evelyne, nous t'écoutons avec bonheur.
En quelques minutes. Voilà. Alors, il était une fois une fillette qui s'appelait Bélissa Crépusculaire. C'est elle-même qui s'était donné ce nom parce qu'elle était née dans une famille qui était si pauvre qu'elle n'avait même pas de quoi donner des noms à ses enfants. Et puis elle avait grandi aussi dans la région la plus inhospitalière du pays, une région accablée par les inondations ou par les sécheresses. Et les 12 premières années de sa vie, péniblement, elle avait essayé de survivre. Et justement, cette année-là, quand elle avait déjà enterré 4 petits frères, puis qu'elle sentait que son tour arrivait, elle a décidé de partir. Elle s'est dit, je ne veux pas moi aussi mourir. Je vais partir, je vais essayer d'aller vers le sud, je vais aller vers la mer. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça qu'un jour, à sa sortie du désert, elle arrive dans un village et elle va découvrir l'écriture. Elle va l'écrire sous la forme d'une feuille de papier de journal jauni que le vent apporte et dépose à ses pieds. Alors elle voit ça, elle ne sait pas ce que c'est. Mais elle est curieuse, mais elle est timide. Elle finit par surmonter sa timidité et puis elle demande à un homme qui vient de faire boire son cheval dans la flaque où elle-même s'est désaltérée. Je dis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la page sportive du journal. Pour elle, ça ne veut rien dire. Elle lui dit, oui, mais c'est ces pattes de mouche dessinées sur le journal. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des mots, fillette. Là, on dit que le Fulgencio Barra, il a mis KO le nègre Tiznao au 3e round. Ah. Alors, elle se dit, tiens, mais les mots n'ont pas de maître. Les mots circulent en toute liberté. Et au fond, chacun, chacune pourrait s'en emparer et en faire commerce. Parce que justement, elle cherche ce qu'elle pourrait bien faire dans la vie. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à elle. Elle pourrait être prostituée, servante chez les riches. Bon, elle n'a pas très envie. Alors elle se dit, tiens, commerçante de mots, commerçante de paroles, ça c'est un métier décent, moi je pourrais faire ça. Et puis dorénavant, c'est ce qu'elle va faire. Et un peu plus tard, elle découvre qu'en plus, les mots ne sont pas toujours écrits dans un journal, mais qu'ils peuvent s'écrire ailleurs. Alors elle s'en va vers un curé, puis elle lui demande de lui apprendre à lire et à écrire. Elle se procure un dictionnaire, elle le lit de A à Z, enfin elle est prête pour exercer son métier. Et puis elle commence à s'en aller de ville en village et de village en ville. Et elle apporte aux gens d'année en année, elle leur apporte des nouvelles de parents éloignés, des nouvelles de la guerre civile, parce qu'il y a une guerre civile dans ce pays. Elle leur offre des prestations très bon marché. Pour 5 centimes, elle donne des vers de poèmes. Pour 7 centimes, elle améliore la qualité des rêves. Pour 9 centimes, elle fait des lettres d'amour. Pour 12 centimes, elle invente des insultes fantastiques pour des ennemis irréconciliables. Tout le monde l'attend d'une année à l'autre avec beaucoup d'impatience. Elle arrive, elle se met toujours sur la place du village, elle ouvre un parasol où elle s'abrite du soleil ou de la pluie selon les saisons et elle exerce son métier. Et voilà. Plusieurs années s'écoulent. Elle est devenue une jeune femme. Tout va bien pour elle. Elle est très contente. Et un jour, justement, qu'elle est dans un village, assise sous son parasol à faire une lettre d'amour, arrive un commando, on va dire, des hommes de troupe, brusquement, à cheval. Ils font fuir tous les animaux du village, tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes. Tout le monde s'enfuit, terrorisé. C'est un commando du colonel qui arrive, dirigé par son lieutenant, le mulâtre. Et le mulâtre, campé sur ses deux grandes jambes, s'arrête devant elle et lui dit « Justement, c'est toi que je cherche. » Elle n'a même pas le temps de répondre, de faire quoi que ce soit. Il s'empare d'elle, il impose comme un paquet sur son cheval et puis il s'en retourne avec ses compagnons vers le campement militaire dans la montagne. Bon, la pauvre Belissa, elle manque mourir pendant ce voyage. Elle n'en peut plus. Et d'ailleurs, elle s'évanouit quand elle arrive dans ce campement. Et c'est seulement au bout de quelques heures, la nuit est venue déjà, qu'elle se réveille. Puis elle voit pencher sur elle le mulâtre, qui attendait évidemment qu'elle se réveille, qui lui propose un peu d'eau de vie pour qu'elle se remette. Et il l'amène devant son chef. Le chef, c'est l'homme le plus craint du pays. Vraiment, le nom du colonel et de son lieutenant, le mulâtre, ils sont associés aux pires calamités. Et donc l'homme le plus craint du pays, il est en train de se reposer dans son hamac. Le feuillage lui cache un peu le visage. Elle n'arrive pas à le voir, mais elle entend sa voix qui est belle et profonde. Et puis, tout d'un coup, à la lumière d'une torche, elle entrevoit son visage. Elle voit qu'il a une peau brune. Elle voit ses yeux de puma. Mais alors surtout, elle se rend compte qu'elle est face à l'homme le plus solitaire de la terre. Il lui dit, c'est toi la femme qui vend des mots? Ah oui, pour te servir. Voilà, ben, j'ai besoin de tes services. Et voilà, il veut en fait devenir président. Parce qu'il en a marre de vivre cette vie-là, de vagabond. Il en a marre de dormir aux intempéries. Il en a marre de manger des soupes de serpents, de se faire bouffer par les moustiques dans son hamac. Il en a marre cette vie, il veut. Et puis surtout, ce qu'il en a surtout marre, c'est de voir la terreur dans les yeux des gens quand il arrive dans un village ou dans une région. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on lui tresse des couronnes de fleurs, il veut qu'on lui monte des arches fleuries. Enfin, il veut changer de vie. Et alors il veut participer aux élections présidentielles, il veut devenir candidat et puis il veut gagner. Et il aimerait qu'elle lui fasse le discours du candidat gagnant. Alors elle a écouté tout ça, elle s'est approchée, elle sent un grand élan vers cet homme. Elle ne peut pas refuser, de toute façon il y a le mulâtre qui lui mettrait une balle entre les deux yeux. Mais en même temps elle a peur que ce colonel si triste fonde en larmes. Elle le regarde, elle sent un grand élan, elle a envie de l'embrasser, elle a envie de le prendre dans ses bras, de le caresser. Bon, alors elle décide qu'elle va elle va l'aider. Et toute la nuit, elle y réfléchit. Le lendemain, elle cherche dans son répertoire tous les mots les plus appropriés pour ce fameux discours. Et puis elle écarte les mots trop secs, les mots trop fleuris, les mots qui sont usés par les abus, les mots mensongers. Elle ne garde que les mots pour frapper la pensée des hommes et l'intuition des femmes. Et quand elle a bien récolter tout ça, elle écrit sur une feuille et puis elle fait signe au mulâtre de l'amener maintenant devant le chef pour lui présenter ce qu'elle a préparé.